Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Dans quelques instants, nous serons avec Laurent Gérard, mais à 8h41, on retrouve Isabelle Choquet et la revue de presse en forme de fable. Dans la presse ce matin, la marquise, les mousquetaires et la gardienne du palais.
À l'Élysée, il y a eu des présidents, des premières dames, et il y a une dame qui les a tous connus. Elle s'appelle Evelyne Richard. Elle a 73 ans et cette année, elle prend sa retraite. Depuis près d'un demi-siècle, c'est elle qui organise les voyages présidentiels. 48 ans et demi exactement, précise-t-elle. Le magazine du Monde revient sur cette carrière extraordinaire. Son arrivée en 69 avec l'équipe Pompidou, sa première grande opération organisée, les obsèques du général de Gaulle. Le joyeux tsunami de 1981 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Elle pensait être virée, Mitterrand l'a adoptée. Indispensable, Evelyne, loyale, discrète, jamais fatiguée, toujours élégante, sourire avenant, mais poigne de fer. Elle houspille ses journalistes, mais elle les protège comme une mère. C'est ainsi qu'en 2012, à Kaboul, elle s'en prend aux gardiens armés jusqu'aux dents du palais présidentiel. Ils avaient demandé aux reporters de laisser leur téléphone à l'entrée. Mais pour qui vous vous prenez? Vous n'avez pas le droit, on n'a jamais vu ça nulle part. Elle leur crie dessus, elle les menace avec son sac à main. Les gardiens restent interdits devant cette femme occidentale qui a l'âge de leur grand-mère. Et il s'incline. Un panzer en escarpin, dira quelqu'un. Evelyne Richard a connu l'époque où il fallait joindre tout le monde, et vite, mais sans portable. L'époque où on installait 14 téléphones dans une salle de presse. Aujourd'hui, dans un G7, il y a 1200 postes de travail. Elle a fait plusieurs fois le tour du monde. Elle a connu l'Iran du Shah, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Excusez-moi. Elle a un faible pour les voyages au château de Windsor. Elle garde d'ailleurs spécialement encadré un portrait dédicacé de la reine Elisabeth. Elle ne vous dira pas quel est son président préféré, mais tout le monde connaît son affection pour Jacques Chirac. François Hollande lui a remis les insignes d'officier de la Légion d'honneur. C'est un monument, dit-il. Ils se sont croisés il y a quelques jours au théâtre. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et l'ancien président lui a glissé « Il faut s'habituer à la vie d'après ».
Alors, nous allons remonter encore un petit peu le temps, bien entendu, et on va s'arrêter en 1927.
Cette année-là, quatre amis liés à la vie et à la mort par les liens sacrés du sport réalisent un exploit, offrir à la France sa première Coupe Davis après des années d'espoir déçu et surtout sur les terres des Américains. Ces quatre-là, on les appelle les mousquetaires. Ils sont un tout, mais chacun est différent. Chacun a son surnom. Il y a René Lacoste, l'alligator, Henri Cochet, le magicien, Jean Borotra, le basque bondissant, et puis Jacques Brugnon, dit Toto. Lacoste est un traqueur. Il se soigne avec un régime invariable. Du sucre, du saut à la corde, un peu de golf et manger seul. Le capitaine de l'époque, Pierre Gilloux, s'amuse de ses angoisses. Lacoste, qui a besoin de beaucoup de travail, se plaignait d'avoir perdu tantôt son revers, tantôt son coup droit, quand ce n'était pas les deux à la fois. Il était de plus à la recherche de son service. La bataille sera héroïque, notamment contre Bill Tilden, alias Big Bill, le plus grand joueur de l'époque. L'amitié sera la clé de la victoire. Lacoste décrira plus tard une joie de grand gosse, Madame Cochet s'évanouissant, Brugnon laissant tomber sa pipe, Borotra justifiant sa réputation de basque bondissant. Depuis, il y a eu 9 autres saladiers d'argent. L'équipe retrace cette épopée dans un hors-série spécial Coupe Davis avec RTL.
La soif de l'argent au cœur d'une bataille fratricide après la mort de la marquise de Moratalla.
Soledad Cabeza de Vaca, marquise de Moratalla, descendante d'un illustre conquistador, mais qui doit sa fortune à sa mère, une veuve anglaise. Fortune difficile à estimer, mais qui doit être conséquente vu les convoitises qu'elle suscite. Une histoire qui n'a rien à envier à un bon épisode de Dallas. La marquise a 2 fils. Un fils biologique, Forester Labrouche, et un fils adoptif, German de la Cruz, venu de Colombie. Or, un mandat signé en Suisse en 2012 par la marquise elle-même donne tout pouvoir à German pour administrer ses biens. Forester a attaqué en justice. Et cette semaine, la marquise est morte à 87 ans au domaine de Coumer, son domicile de Bayonne. Forester a demandé une autopsie. Le parquet de Bayonne vient de lui donner gain de cause. Et selon les informations du Figaro.fr, Forester a aussi porté plainte pour meurtre. Ambiance. Et puis ça ne vous a pas échappé, nous sommes le 1er décembre, c'est le début de l'Avent, l'attente de Noël. Dossier spécial à lire dans La Croix qui s'interroge. Sommes-nous encore capables d'attendre? Certains enfants ont déjà entamé leur calendrier, ils ont fait une orgie de chocolat. Maman, on est vraiment obligé d'attendre? Ben oui, attendre, c'est positif quand ce n'est pas subi, quand c'est une promesse de bonheur. Mais un petit détail en dit long sur nos capacités à patienter. Le bouton le plus utilisé dans un ascenseur, c'est le bouton fermeture des portes.
Isabelle Choquet.